Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce mardi soir 20 juillet 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne, bienvenue dans le journal. Les ministres iraniens et chinois des affaires étrangères se sont entretenus au téléphone de la coopération bilatérale. Le commandant de la marine iranienne est attendu à Moscou. Une forte explosion s'est produite à Bagdad. L'Algérie va renforcer sa coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative Ceinture et la route. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a insisté sur la coopération irano-chinoise dans le cas de la situation en Afghanistan et des questions bilatérales. Lors de cette conversation téléphonique, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a salué la contribution du gouvernement iranien au développement des relations irano-chinoises au cours des 8 dernières années, a rapporté la radio internationale de la Chine. La Chine souhaite élargir les relations bilatérales basées sur la confiance mutuelle, le renforcement de la coopération amicale, l'opposition à l'unilatéralisme, la protection du multilatéralisme et de la justice internationale sous l'administration du président élu Ibrahim Raisi, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise. Wang Yi a également remercié l'Iran d'avoir soutenu la position de la Chine sur des questions majeures, notant que la Chine continuera de soutenir l'Iran afin de préserver sa dignité nationale et de choisir la voie du développement conformément aux conditions nationales et de protéger ses droits et intérêts légitimes. Lors de cette conversation téléphonique, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a salué les efforts de la Chine pour fournir à l'Iran du vaccin anti-coronavirus, exprimant l'espoir que la coopération entre les deux pays se renforcera dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également exprimé sa confiance dans l'approfondissement des relations irano-chinoises sous le gouvernement de Ibrahim Raisi en Iran. Les deux parties ont également discuté des dernières évolutions concernant l'Afghanistan. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a souligné que les pourparlers pour l'échange de prisonniers se sont tenus séparément et parallèlement avec ceux de l'accord nucléaire à Vienne, soulignant ce que font les États-Unis, c'est lier une question humanitaire à un objectif politisé. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le commandant de la marine iranienne est attendu à Moscou. Le commandant de la marine iranienne ainsi que l'ambassadeur d'Iran en poste à Moscou participeront à un défilé naval à l'occasion de la journée de la marine russe à Saint-Pétersbourg. L'ambassade d'Iran en Russie a annoncé que l'amiral Amir Hossein Khanzadi, commandant de la marine iranienne, assistera à la cérémonie de commémoration de la journée de la marine russe à Saint-Pétersbourg, d'après Sputnik. En marge de la cérémonie, l'amiral Khanzadi rencontrera également des représentants du ministère russe de la Défense ainsi que des commandant de la marine russe. Le défilé naval qui se tiendra à l'occasion du 325e anniversaire de la fondation de la marine russe aura lieu le 25 juillet au large de Saint-Pétersbourg. Une séance de répétition a été organisée dans les eaux libres internationales du golfe de Finlande. L'ambassade d'Iran à Moscou a annoncé dans un communiqué que l'amiral Khanzadi dirigerait la délégation avec l'ambassadeur iranien en Fédération de Russie, Kazem Jalali. Plus tôt, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, avait annoncé la participation de la marine iranienne au grand défilé de la marine russe. Un attentat terroriste à Bagdad, de capitale irakienne, a fait une trentaine de morts. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Une explosion survenue lundi à la veille d'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice sur un marché de l'est de Bagdad, a fait entre 28 et 30 morts. Le ministère de l'Intérieur a évoqué une attaque terroriste. Le groupe terroriste Daesh a revendiqué la responsabilité de l'attentat. Une trentaine de personnes ont été tuées, des dizaines blessées dans un attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh sur un marché populaire d'une banlieue de Bagdad en Irak à la veille de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. L'explosion s'est produite en fin d'après-midi lundi sur un des marchés populaires de Sadr City. Selon des sources sécuritaires et médicales, le bilan oscille entre 28 et 30 morts, dont une quinzaine de femmes et d'enfants, et entre 30 et 50 blessés. L'Algérie va renforcer sa coopération avec la Chine dans le cadre l'initiative La Ceinture et la Route. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que de son pays était prêt à approfondir sa coopération avec la Chine dans divers domaines dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route. Le président algérien a fait ses remarques lors de sa rencontre avec le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi en visite à Alger. M. Tebboune a demandé au ministre chinois des Affaires étrangères de transmettre ses salutations cordiales au président chinois Xi Jinping, tout en adressant ses chaleureuses félicitations au Parti communiste chinois à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation. Il a fait de l'éloge des réalisations exceptionnelles du peuple chinois au cours de la révolution et de la construction sous la direction du Parti communiste chinois. Des experts africains de la santé appellent à plus d'investissements dans la recherche et le développement de vaccins locaux anti-COVID-19. Il est crucial d'investir davantage dans la recherche et le développement de locaux de vaccins sûrs et efficaces afin de renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Afrique, ont déclaré des experts lors d'un forum virtuel organisé à Nairobi, la capitale kenyane. Selon Jitani, PDG d'Edinburgh Health Africa, un groupe international de défense de la santé basé à Nairobi, la capacité du continent à vaincre la pandémie dépend du financement international du développement de candidats de vaccins efficaces. Il a en conséquence exhorté les gouvernements africains à augmenter le budget alloué à la recherche sur les vaccins anti-Covid, même s'ils négocient dans le même temps avec des sociétés pharmaceutiques étrangères des brevets pour faciliter la production locale de ce produit essentiel qui sauve des vies. Parmi les questions discutées par les experts de la santé qui ont pris la parole lors du forum virtuel organisé par ce groupe international de défense de la santé basé à Nairobi, figurait notamment la matière de lutte contre l'hésitation à se faire vacciner contre la COVID-19 qui sévit sur le continent du fait de la désinformation. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique et portant sur cette volonté de haut niveau des pays africains de vouloir produire leurs propres vaccins locaux, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. Les États-Unis associent les questions humanitaires à la politique de politiser, fustige et terrante, ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a souligné que les pourparlers pour l'échange de prisonniers se sont tenus séparément et parallèlement avec ceux de l'accord nucléaire à Vienne. En vrai, soulignant ce que font les États-Unis, c'est lier une question humanitaire à un objectif politisé. Le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, lors d'une conférence de presse avec des journalistes tenue le 19 de juillet, faisant référence aux évolutions liées aux affaires étrangères d'Iran ces dernières semaines et en réponse à une question sur les déclarations du négociateur en chef de l'Iran, Abbas Araghchi, qui avait affirmé que de ses pourparlers seront ajournés jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement iranien, a déclaré. Les pourparlers de Vienne se sont déroulés en 6 jours avec vigueur et de bonne qualité. Et le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la relance du plan global d'action conjoint de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 avait été retardée en raison de l'approche américaine. Et puisque les élections présidentielles avaient eu lieu en Iran, il faut attendre maintenant que le nouveau gouvernement soit mis en place. Bien entendu, les politiques générales de l'ordre de la République islamique d'Iran ne changent pas et tout un gouvernement en Iran mettra en œuvre les instructions de l'ordre de la République islamique d'Iran. Il est donc naturel que ces pourparlers se poursuivent normalement de la part part de la partie iranienne. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré à propos de l'agression sioniste contre la mosquée d'Al-Aqsa, l'agression qui a eu lieu à la veille de l'Aïd al-Adha est fermement condamnée et la République islamique d'Iran exprime son dégoût à l'égard de ces exactions. Les sionistes ont montré qu'ils ne comprennent de trop langage que celui de la résistance pour la libération de Novgorod. L'Iran poursuivra ses efforts pour empêcher ces agressions et unir le monde islamique contre ces agissements. S'attardant d'autre part sur les évolutions afghanes, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué l'Iran salue et soutient toute initiative pour la paix et la sécurité en Afghanistan.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, ces jours-ci, nous sommes témoins des manifestations anti-vaccins et contre l'extension du pass sanitaire en France. Évidemment, cela inquiète beaucoup de Français car cela remet en cause la liberté individuelle. Le Parlement est allé jusqu'à adopter, pas encore, mais il est question donc de sanctionner des entreprises qui auraient des employés qui refusent de se faire vacciner, des amendes allant jusqu'à 45 000 euros. Voilà, donc il ne serait pas faux de parler d'une dictature vaccinale en France. Évidemment, la France est le premier pays et le seul pays qui parle de ce genre de loi dans le pays. Voilà. À présent, avant d'inviter, donc d'avoir des invités, des experts des questions internationales sur le plateau, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Vous restez avec nous.
Le porte-parole du gouvernement a encouragé les Français à se faire vacciner et a fustigé une frange très minoritaire de la population opposée au vaccin contre le Covid, qui selon lui se satisferait bien de rester dans le chaos et l'inactivité. Le porte-parole du gouvernement français s'est ensuite exprimé sur ceux qui critiquent les atteintes aux libertés individuelles. Je m'étonne d'entendre M. Bellamy et Mme Le Pen se faire les apôtres de la liberté individuelle, alors que les mêmes s'opposent aux droits des femmes à disposer de leur corps pour l'avortement et défendent des régimes autoritaires comme la Pologne ou la Hongrie qui interdisent des zones d'accès aux LGBT, a-t-il commenté. Ces déclarations de Gabriel Attal sont intervenues le jour où avaient lieu, dans de nombreuses villes de France, des manifestations contre l'extension du pass sanitaire et alors que le projet de loi concernant cette mesure et l'obligation vaccinale des soignants sera présenté le 19 juillet en Conseil des ministres. De son côté, face à l'extension du pass sanitaire, le député LFI s'est appuyé sur une citation de Montesquieu pour appeler les Français à dire non par toute une série de moyens afin de poser une limite à un pouvoir qui abuse. Le député de la Somme a développé son propos. Le pouvoir, quand il a le pouvoir, tend à en abuser. Là, il en abuse. Il abuse de cette monarchie absolue, de cette hyper-concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul homme. Le pouvoir doit trouver une limite. Et la limite qu'il doit trouver en face, c'est nous. C'est nous qui devons dire non par toute une série de moyens, a-t-il encore expliqué, appelant les Français à poser les limites, comme le réclamait Montesquieu.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts des questions internationales, en commençant par M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs.
Un plaisir de vous recevoir, M. Hugon. Un grand bonjour à M. Bernard Cornu, également expert des questions internationales depuis Vaucluse. M. Cornu, bonjour.
Bonjour et bonne fête à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question va s'adresser à vous, M. Cornu. depuis Vaucluse. Alors, nous parlons bien sûr de cette extension du pass sanitaire et du refus de beaucoup de Français à cet égard qui remet en cause la liberté individuelle en France. Et que pensez-vous, M. Cornu?
Oui, c'est d'abord un peu une contradiction avec ce qui avait été promis par le président Macron, qui avait dit qu'en aucun cas ça est obligatoire. C'est ça. Et d'autre part, je pense que c'est plus une opération politique pour apparaître dans quelques mois comme ayant décidé des mesures difficiles ou, disons, pour éviter un quatrième confinement. Parce qu'en fait, je pense que même le regain des contaminations actuelles, qui est dû au déplacement des gens qui sont partis en vacances, donc au mélange de population dans toute la France, dans toute l'Europe, on a quelques points dans les lieux touristiques, près de l'Espagne, près de la Méditerranée, des rebonds de la contamination, mais il n'y a pas du tout encore de rebond des hospitalisations et des hospitalisations graves. D'une part parce qu'une grande partie de la population est vaccinée, et ceci est d'ailleurs assez semblable à ce qui se passe en Angleterre, où on avait déjà depuis plus de 15 jours un rebond très fort des contaminations, mais on n'a pas constaté encore en Angleterre un rebond des hospitalisations graves et des décès. Voilà. Donc je pense qu'il y a effectivement un rebond des contaminations dû au déplacement nombreux des gens, au brassage des populations, mais avec beaucoup moins de risques que précédemment, puisque déjà plus de la moitié de la population est vaccinée. Voilà. Donc restent les problèmes techniques, scientifiques posés. Est-ce que les vaccinations ne favorisent pas la production de nouveaux variants? Voilà. Est-ce que les effets secondaires connus, repérés déjà, ne risquent pas d'augmenter à moyen terme? Voilà. Donc ce sont ces questions qu'il faut poser, et il n'est pas sûr que les obligations vaccinales, à part peut-être pour les soignants et les personnes en contact avec les personnes vulnérables, il n'est pas sûr que ces obligations soient essentielles pour le grand public. Voilà. Donc je pense que c'est une opération politique pour apparaître comme le sauveur de la nation.
Oui. Merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, j'aimerais connaître la vôtre à présent.
Oui, alors je pense que le dossier peut se diviser en deux parties. La première partie, c'est la vaccination. Alors la vaccination, par définition, je ne suis pas contre la campagne de vaccination, dès l'instant où ce vaccin a été testé plusieurs années, de façon à voir bien sûr son efficacité, mais également les répercussions que ça peut occasionner à un grand nombre de personnes. Donc aujourd'hui, on sait que ce vaccin est dangereux, notamment pour le cœur, notamment pour des problèmes d'AVC, de thrombose notamment. Donc ce vaccin a été mis au point à la va-vite. Et ça, c'est un véritable problème sanitaire, puisque les autorités le savent, Macron le sait, et malgré tout ça, Macron veut imposer une vaccination obligatoire. Alors je dirais aujourd'hui, ce n'est plus Macron, son nom, mais Macronescu. On peut dire à moitié Macron, moitié Ceausescu. Donc c'est vraiment de la dictature et une atteinte aux libertés individuelles de vouloir à tout prix imposer comme ce vaccin. La deuxième partie de volet, et que je trouve extrêmement dangereuse, c'est que Macron est en train d'opposer les Français contre les Français. Entre ceux qui veulent se faire vacciner et ceux qui ne veulent pas, on est en train de créer une véritable fracture. Donc ça, je trouve ça absolument incroyable et extrêmement dangereux quand on sait qu'un président doit théoriquement rassembler les Français autour de lui. Lui, il les divise. Alors il est clair qu'il y a des intérêts financiers qui sont absolument énormes au niveau des laboratoires pharmaceutiques. On sait que ce vaccin va générer des dizaines de milliards d'euros de bénéfices. Donc on est en droit de se poser la question, pourquoi est-ce que l'on impose un vaccin à des gens qui n'ont pas qui n'ont pas envie d'être vaccinés? D'autant plus qu'on sait aujourd'hui que ce vaccin a déjà occasionné la mort de dizaines de personnes, qu'il y a des milliers de personnes qui sont malades suite à cette vaccination, et dans 4, 5, 6 ans, c'est plus des milliers de personnes que l'on aura, mais des dizaines de milliers. Donc, par définition, moi, je ne suis pas contre la vaccination dès l'instant où l'on a un recul plus important sur ces vaccins et sur leur efficacité et sur
sur les conséquences de ces vaccinations. Alors Macron, bien sûr, lui veut imposer les choses comme ça, mais ce n'est vraiment pas une chose à faire. Hein. C'est plus de la dictature aujourd'hui qu'une république qui proposerait une vaccination. La vaccination, il faut la proposer, mais il ne faut pas l'imposer.
Oui, tout à fait. Alors, Bernard Cornu, vous avez dit tout à l'heure que Emmanuel Macron avait dit il n'y a pas très longtemps que le vaccin n'est pas obligatoire. Maintenant, ils sont sur le point d'adopter des lois très très sévères contre des entreprises qui auraient des employés qui refusent de se faire vacciner, des amendes allant jusqu'à 45 000 euros, donc une somme colossale tout de même. Donc, que faire donc de cette politique de deux poids deux mesures d'un président qui parle donc d'un vaccin qui n'est pas obligatoire, et d'un coup, il change de cap?
Donc, enfin, la loi n'est pas encore votée, donc on verra, il y aura sans doute des résistances du Parlement, même au sein du parti de M. Macron. Donc, on verra bien comment la loi sera votée ces jours-ci, après être présentée au gouvernement, il y aura des résistances. Je pense que ce sera décidé certainement pour les soignants et pour tous les gens qui sont en contact avec des gens vulnérables. Et ça s'est passé déjà, je pense, en Italie et dans d'autres pays. Voilà, c'est assez logique. Je pense que même pour ces gens-là, s'il y avait des refus, ça serait, je pense, abusif de leur mettre des amendes très importantes ou même de leur refuser leur poste, de les démettre de leur poste, de les renvoyer. Donc il n'y a pas d'autre solution que les mettre peut-être dans d'autres postes un peu à l'écart des malades ou des personnes très, très vulnérables. Voilà. Quant à ce qui va se passer dans l'entreprise, je pense aussi qu'il y aura des résistances du côté du Parlement, même dans le parti de Macron, pour éviter des mesures excessives, des amendes excessives, des punitions. Voilà. Je pense que voilà. Et encore une fois, je dis que c'est plus, moi je ne parlerai pas de dictature, mais je pense d'une astuce du président se présenter comme un sauveur de la nation qui aurait évité un quatrième confinement. Parce qu'encore une fois, je constate que dans tous les pays, même où il y a eu des reprises d'épidémie il y a plus de 15 jours, comme en Angleterre, il n'y a pas des rebonds de la mortalité et des hospitalisations très graves. Et en France, parmi les gens qui sont testés positifs au Covid et qui vont c'est essentiellement des gens qui n'ont pas été vaccinés. Donc je pense qu'il y a un abus, disons, d'utilisation du rebond de vaccination, du rebond de contamination dû au brassage des populations en ce début de vacances, d'où la fin de cette contrainte sur les masques. Et pour pouvoir agiter un peu la peur et se présenter comme un sauveur, alors qu'en fait je pense que quoi qu'on fasse, il n'y aura pas de rebond des hospitalisations graves, des mises en soins intensifs et des décès, comme on le constate dans d'autres pays qui ont eu ces vacances et ces rebonds de contamination avant nous, déjà il y a plus de 15 jours ou 3 semaines.
Tout à fait. Alors Philippe Hugon, est-ce qu'on peut parler quand même d'une dictature vaccinale quand un président essaye d'imposer donc cette dictature donc à la population, une population avec des manifestations anti-vaccins et contre l'extension du pass sanitaire?
Oui, alors, moi, je confirme et je défends cette position. Macron a été élu par des financiers pour imposer une dictature en France. Ce n'est pas une dictature avec des armes, mais une dictature douce, une dictature par la finance, une dictature par la maladie, puisqu'on sait très bien que le virus du Covid a été lâché. Aujourd'hui, je pense plus que qui que ce soit peut douter de cette information, puisque ça permet d'écraser les populations et de couper la parole aux rares personnes de l'opposition qui pourraient venir contester les décisions prises par Macron.
Philippe Hugon, est-ce que ça a été réussi, d'après vous? Est-ce que ça a été réussi, ce projet donc de lancer
Oui, oui, mais bien sûr, ça c'est une opération qui a très très bien réussi. D'ailleurs, il y a plusieurs années que je disais que ce problème de virus allait arriver, ce qui permet de rendre contrôlable une situation qui n'est plus du tout contrôlable. Je parle de la situation sociale, financière, du travail, etc. Donc ça fait des années que je l'avais dit d'ailleurs sur notre antenne que ce virus de se relâcher. Alors bien sûr, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le pain béni, c'est les variants de ce virus. Parce que ce virus va se mettre à tuer dans les années qui viennent par le biais de variants et qui vont réapparaître à différents points du globe et qui permettra d'éliminer du monde. Hein. Il faut bien savoir que dans les 15 ans qui viennent, 15-20 ans qui viennent, si on veut que notre civilisation perdure dans le temps, il faudra éliminer 8 milliards de personnes. La Terre ne peut pas supporter en 9 milliards de personnes comme ça. On n'arrive déjà pas dans certaines régions à se nourrir, on n'arrive déjà pas à vivre correctement, même dans nos sociétés occidentales aujourd'hui. Donc on sait très bien que tout ceci est planifié d'en haut depuis pas mal d'années. Ce serait irresponsable de penser que les choses arrivent comme ça. C'est une très grande absurdité. Donc aujourd'hui, Macron, lui, il a été mis à la tête de l'État par des financiers pour imposer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, quand on parle de la vaccination obligatoire, moi j'appelle plus ça une république, j'appelle ça une dictature. Quant au parti de Macron, c'est plus la République en marche, c'est la dictature en marche. Malheureusement, je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ne voient pas la réalité des choses, n'ont pas suffisamment de recul sur ce qu'il se passe et n'ont peut-être pas suffisamment d'informations, puisqu'il faut savoir que les livres divulgués sont totalement faux et que les médias français ne diffusent que de fausses informations sur ce problème sanitaire. Donc, pour les gens informés, on sait très bien que les choses vont très très mal se passer dans les années qui viennent. Macron a été élu pour ça. Et Macron, c'est une poupée. Une poupée, d'ailleurs, dans tous les sens du terme. Hein. Mais c'est une poupée qui est manipulée par des financiers. Donc, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce qu'on lui dit, ce qui est bien différent. Et je suis au regret de constater qu'en France, qu'il y a encore des gens qui doutent encore des dessins des financiers qui ont décidé pour nous un certain nombre de choses. Et je trouve ça vraiment regrettable que les gens puissent aient pu voter pour un type comme ça, puisqu'on n'a plus aujourd'hui de politique avec vraiment des convictions. Aujourd'hui, c'est l'argent qui dirige tout, et malheureusement, c'est une véritable catastrophe pour l'humanité.
Bernard Cornu, est-ce que vous partagez la colère de M. Hugon quand il parle d'un président qui a été élu pour être dictateur?
Je dirais que les puissances d'argent ont certainement contribué à financer sa campagne, donc à lui permettre d'être élu dans les conditions des élections françaises, c'est-à-dire avec pas une grosse proportion de voix à cause de notre système électoral. En revanche, je pense que les gens qui sont enrichis, effectivement, ce sont d'autres puissances d'argent, ce sont les grands laboratoires pharmaceutiques, tous les directeurs de laboratoires, parce qu'en France, on fait encore 400 000 tests par jour. Ce sont des tests qui sont automatisés, qui se font donc avec peu de personnel, et on va voir que tous les laboratoires, petits ou grands, ont fait des fortunes dans cette période-là, alors qu'en fait, on pourrait avoir des politiques beaucoup plus ciblées sur les seules personnes vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées, les personnes qui ont d'autres maladies, les personnes qui sont obèses, puisque l'on sait que les taux de létalité sont très très faibles, c'est 0,01%. Pour les personnes actives jusqu'à 45 ans, c'est aussi très faible. Ça se compte il y a très peu de risques pour ces gens-là. Donc, encore une fois, la gestion sanitaire a été très généralisée, alors qu'elle aurait dû être depuis le début, parce qu'on le savait déjà pour les études chinoises, par les observations dès le début de l'épidémie, les statistiques, on savait que les populations en risque étaient très bien définies, qu'on a généralisé en fait des actions, on a embêté tous les jeunes, tous les actifs, et comme l'a dit récemment un médecin psychiatre de Bordeaux dans une lettre à Macron qui a été publiée, les mesures de la gestion sanitaire a affecté les jeunes beaucoup plus gravement que le Covid lui-même. C'est-à-dire, les gens ont été privés d'université, privés d'école, privés de présence, de contact avec leurs professeurs. Cela est très mauvais pour la société en général. Voilà. Donc, moi, ce que je critique, ce n'est pas une dictature sanitaire, mais une mauvaise gestion de cette pandémie en France et dans beaucoup de pays. Au lieu d'être ciblé, les politiques ont été généralisées. Et je pense que ça a été très nocif pour une partie de la société.
Donc, d'où, M. Bernard Cornu, la présence des milliers de Français dans les rues pour crier leur colère contre donc, l'obligation de ce vaccin et contre l'extension du pass sanitaire, M. Cornu?
Oui, il y a eu au moins 115 000, 114 000 Français dans les rues contre ça, mais ça représente un nombre très faible. C'est de l'ordre de ce qu'il y en avait dans les manifestations des Gilets jaunes. Ce n'est pas les manifestations, un million de personnes contre les guerres du Golfe qui ont été quand même prises, qui ont été faites quand même. Donc c'est encore des mouvements marginaux. Et malheureusement, ce que je regrette moi-même, ce sont surtout des personnalités de la droite, de l'extrême droite, qui se sont manifestées dans ces manifestations, qui ont parlé, alors que les partis de gauche, les partis écologistes ont un discours, un peu de discours cohérent, effort de critique de la gestion de l'épidémie, y compris de l'imposition du pass sanitaire et des mesures de restriction qu'on va avoir à partir de après-demain en France ou début août, voilà, qui elles sont nocives pour l'économie, qui sont nocives pour la société, à qui on impose des choses au lieu de discuter, d'avoir des efforts pédagogiques avec un vrai débat scientifique qu'on n'a encore jamais vu dans nos télévisions, puisqu'on voit toujours la parole de l'État et du comité scientifique proposé par l'État, sans un réel débat entre scientifiques, entre spécialistes.
Oui. Philippe Hugon, parlons de Mélenchon, je vous prie à présent, la France insoumise, le parti La France insoumise, qui s'est déjà déclaré très en colère contre donc, ces lois qui vont être adoptées très bientôt pour sanctionner des Français qui refusent de se faire vacciner. Est-ce qu'il a raison?
Alors, je m'excuse, mais pas entendu, la communication est découpée. Si vous voulez bien répéter.
Oui, bien sûr. J'aimerais que vous parliez de Mélenchon, la France insoumise, qui se dit prêt donc, à contrer ces lois qui consistent à sanctionner des Français qui refusent d'être vaccinés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce monsieur?
Je suis vraiment désolé, la communication est très mauvaise, je oui. ne vous entends pas très bien.
Oui, est-ce que vous m'entendez à présent, monsieur Hugon? Voilà, alors Mélenchon, la France insoumise, qui se dit donc très en colère et qui veut contrer ces lois qui vont être adoptées bientôt pour sanctionner donc les Français qui refusent d'être vaccinés. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mélenchon?
Ah oui, bon, moi je pense qu'il faut bloquer cette campagne de vaccination puisque ce vaccin est dangereux. Et les vaccins mis au point actuellement sont dangereux. Ce qui est assez incroyable, c'est que Macronesco a décidé malgré tout d'imposer un certain nombre de vaccinations, en espérant bien sûr que ça ne se passe pas, puisque ça voudrait dire dans ce cas-là que du fait que les hautes autorités françaises connaissent la dangerosité de ces vaccins, laissent vacciner les gens. Donc ça veut dire que ça, c'est quand même des crimes quand on sait que ce vaccin peut tuer. Donc c'est des crimes avec préméditation, puisqu'ils le savent. Donc il ne faut plus se faire vacciner actuellement, puisque ces vaccins sont dangereux. Et il ne faut surtout pas l'imposer aux gens. Que des gens veulent se faire vacciner, c'est le droit, c'est des libertés individuelles. Donc qu'ils se fassent vacciner, c'est une chose. Mais de l'imposer aux gens, ça, c'est plus un acte républicain, c'est une dictature, là. Donc il faut arrêter tout ceci et essayer de bloquer toutes ces lois qui sont vraiment perverses et qui vont contre la démocratie. Donc je le dis bien, il faut le proposer, mais ne pas l'imposer aux populations.
Monsieur Cornu, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Monsieur Hugon?
Ah, ce qu'a dit Mélenchon, je suis tout à fait d'accord. Il parlait surtout des soignants et des personnes qui travaillent avec des personnes vulnérables, âgées ou malades. Envisager de les punir sévèrement, de les renvoyer, c'est inadmissible parce que les soignants ont été à la pointe de la lutte contre la pandémie en soignant les gens, ils sont très mobilisés en étant privés de vacances, même certaines. Je pense qu'il faut envisager d'autres mesures que ces amendes très fortes ou ces punitions, ces renvois de leur emploi. Je crois que les soignants et les personnes qui sont occupées des personnes âgées sont des personnes qui ont beaucoup mérité, comme on dirait, de la patrie et de tous les efforts qu'ils faisaient. Je pense qu'il est très malsain de les menacer. Je pense que si certains sont vraiment réfractaires à la vaccination, qui, à mon avis,
n'est pas dangereuse. On connaît mal les risques à long terme, mais les vaccinations pour d'autres maladies ont toujours fait des effets secondaires dans les quelques semaines suivant la vaccination, dans l'immense majorité des cas des vaccinations. Et donc, autant je reconnais qu'il y a des risques parce qu'il y a un inconnu, des effets à long terme, autant je ne dirais pas qu'elle est vraiment dangereuse. Le taux de mort de gens vaccinés s'établit à quelques 7 ou 8 personnes par million parmi les vaccinés, selon les statistiques de tous les temps qui contrôlent les effets secondaires suite aux vaccinations. Voilà, je pense qu'il est quand même, disons, un peu excessif de dire que la vaccination est dangereuse. Il y a des inconnus, il y a des risques, oui, mais dire déjà qu'elle est dangereuse, moi je ne partage pas tout à fait cette avis. Voilà. Donc, mais par contre, je soutiens tout à fait cette politique de M. Mélenchon d'avoir dit qu'il est inadmissible d'envisager des mesures aussi graves envers ceux qui refuseraient, parmi les soignants, qui refuseraient la vaccination.
Bernard Cornu, depuis Vaucluse, expert des questions internationales. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre, également expert des questions internationales, d'avoir apporté beaucoup de précisions et avait fait vivre le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir choisi cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, chef de la délégation iranienne au Palais de Vienne sur la relance de l'accord nucléaire de 2015, a déclaré dans un des tweets que le Palais de Vienne devrait attendre le nouveau gouvernement. Nous sommes dans une période de transition et un transfert démocratique du pouvoir est en cours à Téhéran, a tweeté Abbas Araghchi. Il a ajouté, il est clair que les peuples de Vienne doivent attendre le nouveau gouvernement en Iran. C'est une exigence de toute démocratie. Le haut diplomate iranien a déclaré que les États-Unis et la Grande-Bretagne devraient comprendre cela et cesser de lier un échange humain qui est prêt à avoir lieu avec les peuples sur la relance du plan global d'action conjoint. Tenir l'échange de prisonniers en otage d'objectifs politisés entraînera à la fois la perte d'échange du plan global d'action conjoint, a prévenu le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la délégation iranienne au Palais de Vienne sur la relance du plan global d'action conjoint a poursuivi 10 prisonniers de tous bords peuvent être libérés demain si et seulement les États-Unis et la Grande-Bretagne remplissent leurs obligations en vertu de l'accord. L'Iran s'est déjà dit ouvert à la précédente administration américaine de l'ancien président américain Donald Trump a procédé à un tel échange de prisonniers, mais Washington a insisté pour prendre les Iraniens en échange et a refusé de s'asseoir à la table des négociations. Pas moins de 30 entreprises iraniennes basées sur le savoir présenteront leurs réalisations scientifiques et technologiques au salon aéronautique russe MAX de 2021 30 entreprises du savoir de la République islamique d'Iran présenteront leurs réalisations scientifiques et technologiques à ce salon qui se tiendra du mardi 20 juillet 2021 au dimanche 25 juillet 2021. La signature d'un accord de coopération avec le ministère russe de l'Industrie et du Commerce ainsi que la rencontre des B2B des entreprises iraniennes du savoir avec leur homologue russe sont les autres plans annoncés à l'ordre du jour de la délégation iranienne lors de son séjour à Moscou. La réunion d'affaires des entreprises et du savoir iranienne avec leur homologue russe aura lieu également. La cause palestinienne est la plus proche à nous parmi les questions régionales, a déclaré le président syrien Bachar al-Assad. La Syrie n'est pas isolée des problèmes qui l'entourent et la plus proche à nous parmi les questions régionales est la cause palestinienne, a déclaré le président syrien Bachar al-Assad lors de la cérémonie de la prestation du serment constitutionnel. Le président syrien Bachar al-Assad a prêté serment pour un quatrième septennat lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Damas, après avoir remporté le scrutin du 26 mai avec 95,1% des voix. Vous avez démontré par votre conscience et votre appartenance nationale que le peuple ne perd pas leur détermination à défendre leurs droits, peu importe les complots des colonisateurs, a déclaré le président Assad s'adressant au peuple syrien. Il voulait le chaos et qui brûlerait notre patrie. Avec votre unité nationale, vous avez saboté les projets qui visaient la patrie, a-t-il souligné. Et de poursuivre, le pari des ennemis était sur notre peur du terrorisme et de transformer le citoyen syrien en un mercenaire qui vendrait son pays. La conscience du peuple est notre bastion et notre norme par lesquelles nous mesurons notre capacité, notre force à surmonter les efforts et distinguer entre révolution et terrorisme. À ceux qui ont été trompés et ont parié sur la chute de l'effondrement de l'État, je réitère mon appel de retourner à la patrie car les enjeux sont tombés et la patrie subsiste, a lancé le président syrien. Nous perdons en croyant que la dissociation est une politique et qu'elle nous protège des troubles qui nous entourent, et si nous croyons que les problèmes qui nous entourent sont isolés de notre cause. Nous gagnons quand nous comprenons en profondeur que la plus proche à nous parmi les questions régionales est la cause palestinienne, a affirmé Bachar al-Assad. Et de conclure, nous n'abandonnerons jamais la question de la libération de ce qui reste de notre terre. Nous allons en fait tout faire pour en fait nous débarrasser des terroristes et de leurs sponsors turcs et américains. Au Yémen, les États-Unis se sont désormais directement engagés dans les combats secondés par les terroristes caïdistes en Yémen, où ils s'appliquent à multiplier les fronts, non pas pour marquer des gains militaires, mais pour perdre. À Al-Baïza, les officiers US ont tenté de faire enliser un Sarallah. À Al-Zahra, la localité fut libérée en 3 jours, idem à Marib, où des mercenaires à la solde du régime saoudien se sont emparés mercredi 14 juillet de la ville Rahba, mais en moins de 48 heures, ils l'ont perdu face à un Sarallah qui a pu reprendre le centre-ville de Rabat et faire une progression nette vers 2-3 quartiers. Le coup a donc tourné à l'avantage de la résistance. les mercenaires affiliés à Mansour Hadi et ceux affiliés à la coalition d'agression saoudienne n'ont pu tenir que quelques heures face aux lourdes attaques de combattants d'Ansar Allah et des forces de l'armée qui tâtaient de près les capacités des forces de terrestres US en vue de futures offensives US à venir. Des entreprises israéliennes aident l'Arabie saoudite à espionner les opposants, selon le New York Times. Les sociétés de surveillance électronique israéliennes travaillent pour l'Arabie saoudite et lui fournissent des programmes d'espionnage sur les opposants dans le pays et à l'étranger, avec l'encouragement des autorités israéliennes. Un rapport publié par le New York Times a révélé qu'Israël a secrètement autorisé un groupe de sociétés de surveillance électronique à travailler pour le gouvernement du régime saoudien. Le rapport a souligné que cette étape a eu lieu malgré les craintes internationales que l'Arabie saoudite utilise des logiciels espions pour écraser l'opposition au pays et à l'étranger, en particulier après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, et d'ajouter que le groupe israélien NSO a annulé ce contrat avec l'Arabie saoudite après la mort de Khashoggi en 2018 au consulat saoudien à Istanbul, mais le gouvernement israélien l'a encouragé ainsi que deux autres sociétés à continuer de coopérer avec le régime saoudien. Le gouvernement israélien a accordé une nouvelle licence à une quatrième entreprise pour travailler avec l'Arabie saoudite, faisant fi des inquiétudes concernant les violations des droits humains selon un non-responsable israélien et trois personnes associées à ces entreprises qui ont été interrogées par le NYT. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.